Avant l'orage, une émission féministe de découverte littéraire. Et pas que. Cette semaine, c'est la Bibli, les lunes, les lins qui revient. Et c'est Jade et Nina qui viennent nous en parler. Bonjour.
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 Et pour cette édition, on s'est dit qu'on ferait un focus sur les nouveautés jeunesse. Parce qu'on vient d'acquérir des nouveautés en littérature jeunesse. Avec une réflexion aussi sur comment c'est difficile de constituer un fonds jeunesse qui soit pas oppressif et qui soit inclusif. Et aussi pourquoi c'est important pour nous. Et oui, je précise aussi que j'utilise le « nous » parce que moi aussi, je fais partie de la Bibli. Et je vais donc essayer d'animer cette émission pas trop comme une interview, mais plus comme une discussion, un échange entre nous. Vous pouvez aussi me poser des questions si vous voulez. Et on peut commencer peut-être par présenter la Bibli. Comment elle est née, cette Bibli ?
Bah, on a eu l'envie assez forte de partager à un moment nos livres et nos lectures. Je crois que pour moi, la lecture, c'est un outil énorme. Et en fait, tout ça, c'est arrivé juste au moment du... Enfin, il y avait le confinement, il y avait les bibliothèques qui fermaient aux gens qui n'avaient pas le pass sanitaire. Et c'était assez choquant, en fait, de plus pouvoir avoir accès à ces lieux si importants. Et à la fois, moi, je lisais beaucoup de livres qui me transformaient et je les trouvais très chers et je trouvais que c'était vraiment... dommage de rien en faire, en fait, une fois les avoir lus. Donc voilà, quand j'en ai parlé à Jade, on a fusionné sur l'idée et en fait, on a monté ça au sein de l'association d'éducation populaire La Fougue, qui existait déjà depuis 2 ans, dans l'idée aussi d'avoir une assise un peu importante, enfin, déjà un réseau et de se sentir intégré à quelque chose qui était déjà sur le territoire. Et voilà, et on a lancé... Vas-y Jade, je te laisse continuer si tu veux prendre le relais de comment on a commencé.
Oui, j'ai l'impression que ça fait un peu plus d'un an qu'on a commencé à en parler. C'était au début un peu un rêve, on se baladait en discutant de ça et de ce qu'on aimerait que ça soit.
Ce qu'on voulait aussi, c'était, je crois, créer un collectif. On s'est vite rendu compte aussi en regardant sur Internet qu'il y avait déjà plein d'idées comme ça, plein de bibliothèques comme ça. Certaines historiques qui avaient au moins 10 ans et d'autres plus récentes. Et en fait, qui fonctionne, souvent avec des collectifs autogérés. Donc, nous, on s'est connus dans le cadre du Café Féministe, qui est un rendez-vous qui a lieu une fois par mois à Aubenas, qui sont des rencontres en mixité choisie.
Oui, et c'est vrai qu'en parallèle de ça, on est allé rencontrer d'autres bibliothèques qui fonctionnaient un peu, d'une manière qui nous faisait envie. On est allé à Marseille et à Fort-Calquier.
Et à Marseille, on t'a rencontré.
Et oui, et on a rencontré Colline, qui était aux Héroïnes, la bibliothèque de Marseille. Et donc c'était chouette aussi de découvrir comment ça se passait ailleurs, pour s'inspirer. Ouais, ça nous a enthousiasmés, et je pense que ça nous a donné confiance aussi, enfin moi je parle pour moi, de voir qu'on pouvait démarrer avec pas forcément beaucoup de livres, et que petit à petit ça pouvait prendre, enfin voilà, on a eu envie de tester ça.
Et puis après oui, avec la spécificité de l'Ardèche et de ses territoires sinueux.
Voilà, et ce qui fait que pour l'instant, la Bibli n'a pas de lieu fixe, elle est plutôt itinérante. Là, on a 2 lieux dans lesquels on fait une permanence mensuelle, une à l'USAS à la bibliothèque municipale et une au pas de côté à Mercuey. Donc ça, c'est plutôt depuis septembre 2022.
Et le nom de la Bibli, on l'a pas trouvé tout de suite ? Ou on l'a trouvé tout de suite ? Moi, je sais pas, j'étais pas là au tout début.
Moi, j'ai l'impression que c'est arrivé hyper vite.
Ok.
Je sais pas, en fait, je crois qu'un soir, je réfléchissais à la lune et je me suis dit, tiens, mais la lune, elle apostrophe une, ça fait la lune autrement. Et je trouvais ça bizarre, enfin, je trouvais ça beau et à la fois, je trouvais ça bizarre parce que la lune, elle change tout le temps. Et après, j'ai pensé à les lunes. Enfin oui, en fait, on a cherché autour de lune, l'apostrophe, un.e.s ou .es en écriture inclusive. Et moi, c'est une langue que j'ai appris à parler ici, dans les milieux féministes, en fait, de féminiser ou même de me permettre d'écrire en écriture inclusive. Ce qui n'est pas une évidence. Et je crois que moi, je trouvais chouette qu'on écrive à l'intérieur d'une époque où, en fait, on s'approprie... ou pas ce point inclusif, qui j'ai appris récemment est interdit d'être enseigné dans l'éducation nationale. C'était super sur ce truc de la pluralité de l'unicité, et que le jeu de mots, il était bien local.
Oui, avec le point médian, les lunes. Alors en plus, le point médian, moi je me dis à chaque fois, peut-être qu'à l'oral, ça donne les lunes, les lins. Si on veut le faire entendre, en fait, ce point médian, c'est pour ça, des fois, je dis les lunes, les lins. tout à l'heure, j'ai dit ça en introduction. Je sais pas, ça vous a fait bizarre. Vous le dites aussi, les lunes, les lins.
Moi, je crois que c'est depuis que je t'ai entendu le dire que je le dis des fois. Oui, moi, je trouve ça chouette aussi, dans le cadre d'une bibliothèque qui est quand même l'endroit où sont les mots, de jouer avec les mots aussi, de s'autoriser à faire avec la langue des choses qui sont pas forcément autorisées par l'Académie française de je sais pas quoi, mais ouais, j'aime bien cette idée-là de s'affranchir un peu des règles orthographiques. Et pour visibiliser aussi, notamment, voilà, le fait que la Bibli, c'est, on a dit que c'était une bibliothèque féministe, avec une pluralité de féminisme, et puis aussi, on a envie de soutenir tout un tas de minorités au travers des livres qui sont proposés, et du coup, notamment les minorités de genre. Et donc, je trouve que le fait de mettre ce point médian, ça fait un petit clin d'œil, ça ouvre à ça aussi.
Et donc, tu disais qu'on nous retrouve le mercredi après-midi, enfin, pas tous les mercredis, mais un mercredi par mois à Mercué, au pas de côté. C'est le mercredi 26 avril, la prochaine perme. Et c'est le soir, du coup, entre 16h30 et 20h. Mais il y a aussi la perme de Lussas, tu en as parlé tout à l'heure, Jade. Le samedi matin, un samedi matin par mois. Et le prochain rendez-vous, c'est le 29 avril.
Et dans les deux cas, en fait, je crois que... Enfin, je sais pas à Lussas, mais en tout cas à Mercué, quand on a réfléchi à quand est-ce qu'on voulait faire la permanence, on a pensé aux horaires où les parents seraient libres pour venir avec des enfants.
Et oui, parce qu'on va pouvoir un peu commencer à s'approcher du cœur du sujet, mais on vient d'acquérir des nouveautés à la bibliothèque Les Lunes, et notamment des nouveautés en littérature jeunesse, qui seront donc à découvrir pour ces prochaines permes. Et pour expliquer comment on a acquis ces livres, on peut peut-être commencer par expliquer le fonctionnement de la Bibli. On n'a aucune subvention pour l'instant, on est toutes bénévoles. On a constitué notre fonds à partir de dons, de prêts. On peut aussi prêter des livres à la bibliothèque. Enfin, c'est de la mise en commun de fonds personnels, en fait. Et récemment, on s'est aussi adressé à des maisons d'édition en lien avec la radio Info RC. Est-ce que vous voulez dire un mot sur cette démarche ?
On savait par les autres bibliothèques que ça se pratiquait. En fait, les maisons d'édition, elles envoient des services, qu'on appelle des services de presse, hein, donc des livres, juste avant la sortie des livres, aux journalistes, mais aussi aux librairies, aussi à des bibliothèques. Et un peu l'échange, c'est de communiquer sur ces sorties, d'en faire des critiques, des chroniques. Et donc on avait vu ça à Fort-Calquier, à Marseille aussi, je crois que vous le faisiez, non ?
Ouais. Avec le gang des gazières.
Voilà.
Et la bibliothèque des héroïnes. Un petit coup de pub.
Voilà, donc nous aussi, ici, on a eu envie de faire ça. Et c'est vrai que ça peut apporter quelque chose de très important, c'est que les livres, quand ils sortent, ils sont très chers. En fait, je pense que aussi bien les autrices, les auteurs, les maisons d'édition, ils sont sensibles en fait, au fait que les livres circulent et que ça n'empêche pas la vente de livres et qu'au contraire, plus ils seront diffusés, distribués et plus on en parlera. Et là, du coup, ce qui s'est passé, par exemple, avec une des demandes qu'on faisait, c'était un livre sur le consentement pour les enfants, dont on va parler plus tard, qui s'appelle « Faut savoir dire non » de Agnès Rosenstiel. L'autrice de Mimi Cracra. Quand on a fait la demande auprès d'Albin Michel pour donc ce livre qui vient de paraître, en fait, la personne en face nous a dit « Ah, mais j'ai peut-être d'autres livres qui peuvent vous intéresser. » Et du coup, en fait, c'était génial. On s'est retrouvés à recevoir trois livres ados, dont le dernier livre de Laurane Safou, sa fiction, enfin, c'est un livre de science-fiction plus pour ados, adultes. Voilà, et en fait, c'est des livres qui correspondent complètement au fond qu'on veut constituer.
Oui, et ça tombait plutôt bien parce que jusque-là, le petit fonds jeunesse qu'on avait, c'était plutôt pour les tout-petits. Et on n'avait pas trop de littérature ado. Et donc là, ça permet de développer aussi ça. Et donc le fait d'en parler à la radio, en plus, Info RC, c'est une radio en milieu scolaire, donc hyper cohérent.
Ouais, moi j'avais aussi l'idée que vu que c'est une radio en milieu scolaire et que j'anime aussi des ateliers avec les jeunes, avec les enfants et les ados, que ça puisse, ces livres puissent servir aussi de support pédagogique et que ça donne lieu à un relais radio. Donc ça donne aussi une audience à ces livres, en même temps que ça peut donner des idées aux enseignantes, aux enseignants, de faire des animations autour des questions de genre. Enfin, il y avait toute cette dimension-là. Et du coup, t'as un peu brisé le suspense en parlant du livre qu'on va présenter aujourd'hui, « Nos jours brûlés » de Laurane Safou. Et nous, de Laurane Safou, on connaissait surtout le livre « Comme un million de papillons noirs », qui est aussi à la Bibli. Et on peut écouter l'autrice présenter son livre.
C'est une citation de Toni Morrison dans son roman Délivrance, où elle compare en fait l'afro de son héroïne, donc qui est une femme afro-américaine, à l'envol d'un million de papillons noirs. Et donc la première maison d'édition qui m'a proposé ce projet m'a demandé de créer une histoire autour de cette citation. Je la connaissais déjà. Je me suis donc attachée à cette citation pour faire le lien avec ma propre expérience, notamment un souvenir d'enfance où à l'école on s'était moqué de mes cheveux et particulièrement de mes nattes, et où j'étais rentrée chez moi en disant à ma mère que je n'aimais plus mes nattes. Et donc voilà, je me suis servie de ce petit souvenir-là pour créer l'histoire d'Adé, l'héroïne de Quand même papillon noir, et qui est moquée pour ses cheveux. Et donc sa mère va se servir de cette allégorie du papillon pour l'aider à apprivoiser son chemin, quoi.
C'était la voix de Laura Ensafou, qui était dans l'émission En sol majeur sur RFI, et qui présentait son livre Comme un million de papillons noirs. Est-ce que vous voudriez nous présenter Laura Ensafou, cette autrice ?
Oui, et bien nous on l'a découvert effectivement avec ce livre-là, qui est littérature jeunesse plutôt pour les petits. On a bien accroché et depuis on a donc découvert qu'elle avait écrit d'autres choses, notamment Sur le chemin de Jada, et puis tout récemment, donc Nos jours brûlés, qui est une trilogie dont pour l'instant deux tomes sont sortis. Donc Laura Ensafou, c'est une autrice littérature plutôt jeunesse et aussi une blogueuse afroféministe. Elle est assez active sur Instagram, elle partage plein de choses, c'est assez chouette sa vision notamment des représentations dans la littérature, des représentations des personnes issues de minorités. Je rapporte un peu sa parole, mais elle dit qu'elle n'était pas une grande lectrice quand elle était petite et qu'elle se demande si c'était pas aussi parce que dans les histoires il n'y avait pas de personnages qui lui ressemblaient. Elle en parle dans un épisode du podcast Kif Taras, qui s'appelle « Grandir avec des histoires qui nous ressemblent », où elle évoque ça justement, et le fait que, en tant qu'autrice, c'est une de ses envies de proposer des représentations de personnages afrodescendants.
Et moi, juste si je peux ajouter un petit chose sur ses livres en jeunesse, en fait, elle en a fait deux autres. Il y en a un que j'ai lu récemment, mais qui est vraiment hyper beau, qui est sur le deuil d'une mère ou d'une grand-mère. Et c'est assez délicat comment c'est abordé. Et un autre que j'ai pas encore lu, et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on se procure, qui est sur le colorisme. Et moi j'ai appris grâce à elle ce que c'était que le colorisme. Je sais pas si vous voyez ce que c'est.
Je pense que c'est bien de l'expliquer dans tous les cas.
Un peu. En fait, c'est une graduation qu'il y a entre les personnes noires de peau, de discriminer. En fait, plus la personne est foncée de peau, plus... elle va être en proie à du racisme. Mais donc, elle a fait un livre vraiment autour de ce sujet-là.
En tout cas, l'autrice, c'est Laura Ensafou, et elle a aussi écrit Nos jours brûlés aux éditions Albin Michel. On peut peut-être parler de ce livre. Si vous êtes en train de le lire, vous l'avez lu toutes les deux. Enfin, on a les deux premiers tomes maintenant à la Bibli, et ils vont être bientôt disponibles à l'emprunt.
Oui, moi, je les ai lus tous les deux. Donc, j'attends avec impatience la sortie du troisième. A priori, ce sera pour septembre. Ce sont des livres plutôt de science-fiction pour ados. Laura Ensafou, elle explique qu'elle s'est pas mal inspirée de Octavia Butler et de Nora K. Jemisin, qui sont des autrices afro-américaines de science-fiction. Voilà, c'est plutôt rare les autrices afro-américaines qui écrivent de la science-fiction qui sont publiées, et du coup ça propose des imaginaires un peu différents. Donc j'ai l'impression que ça fait partie de nos envies à la Bibli Les Lunes, de proposer d'autres imaginaires, d'autres voix. Et du coup, Nos jours brûlés, bah déjà, je trouve que... Enfin, moi, il m'a vachement attirée rien que par l'illustration de couverture, que je trouve super belle. Donc, c'est Nin Salahoun, l'illustratrice. On suit l'héroïne Elikia, qui, je crois, a 19 ans. Et dans ses aventures, il y a beaucoup de rebondissements, d'actions. Oui, peut-être je peux un peu raconter, enfin, sans spoiler, mais ça se passe en 2049, dans un monde où le soleil a disparu depuis 20 ans. Donc, Elikia, l'héroïne, n'a jamais connu le soleil. Et sa mère lui annonce un jour qu'elle a trouvé peut-être une piste pour retrouver une cité perdue au Cameroun dans laquelle peut-être on pourrait trouver la clé pour faire revenir le soleil. Donc toutes les deux, elles partent en quête de cette cité perdue. Et elles découvrent que la disparition du soleil est liée à un effet divin. Donc elles vont être confrontées au fur et à mesure de l'histoire à de nombreuses créatures divines qui sont issues des cosmogonies de l'Afrique francophone. Les cosmogonies, c'est un peu les récits de création du monde. Toutes les cultures ont leur cosmogonie. Et voilà, enfin, moi j'ai découvert avec ça ces cosmogonies-là qui ne sont pas du tout représentées en France. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Et du coup, Elikia, elle parcourt le Sénégal, le Mali, le Soudan, le Brésil et les Antilles. Et Laura Ensafou, elle explique qu'elle a eu la volonté de décloisonner certaines représentations, notamment... voilà, en général, on parle des personnes noires sans chercher à creuser d'où elles viennent. Voilà, y a pas mal d'amalgames. Et donc, elle a voulu montrer à la fois la diversité des cultures et des expériences des personnes issues de tous ces endroits, par exemple. Et donc ça m'a marqué ce fait que, en fait, l'Occident est quasiment pas présent dans cette histoire, c'est pas du tout un référentiel, et que ça m'a fait écho au fait que beaucoup de ce que j'ai pu lire, c'est toujours sa part de l'Occident, comme si c'était le centre du monde, et là, c'est décalé, et c'est plutôt bienvenu.
Et Laura Nsafou, elle situe son roman Nos jours brûlés dans le courant afrofuturiste. Tu peux nous expliquer c'est quoi l'afrofuturisme ?
Oui, et ben effectivement, je connaissais pas trop avant, et donc ça m'a donné envie de chercher. Donc, de ce que j'en ai compris et de ce qu'elle en dit, Laura Nsafou, c'est un mouvement artistique qui propose d'imaginer une Afrique du futur, aussi bien par rapport à sa relation à la technologie que dans ses rapports à l'éthique et à l'intelligence artificielle, et toujours en proposant des références culturelles à la diaspora africaine, qui est peu représentée dans la science-fiction occidentale. Et c'est un mouvement qui n'est pas propre à la littérature, mais qui touche l'art en général. Et donc, Nos jours brûlés, ça a effectivement une démarche afrofuturiste. Donc l'intrigue, elle se passe dans le futur, majoritairement sur le continent africain, mais aussi au Brésil et aux Antilles. Bon, après, la technologie, elle n'est pas du tout centrale dans ce récit-là, mais on voit vraiment cohabiter les traditions, les cosmogonies, les spiritualités de l'Afrique francophone dans une période futuriste. Et il y a un lexique qui est très bien fait à la fin, tout un dossier pour expliquer cette mythologie et nous situer un peu, nous aider à nous repérer, parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de personnages, des divinités, et on peut s'y perdre un peu. C'est très foisonnant.
Et ça vous dit qu'on en lise un extrait ?
Oui, on s'est dit qu'on pouvait lire le tout début du tome 1. Ça met un peu dans le contexte, c'est pas mal pour poser l'ambiance.
Trop cool.
En 2049. Il y a deux choses que je n'ai jamais vues. Mon père et le jour. Mon père nous a quittés peu de temps après ma naissance. Ma mère ne s'était jamais attardée sur le sujet, mais je savais que son départ avait quelque chose à voir avec moi. Enfant, je croyais que c'était à cause de mes taches de naissance sur le visage. Dit comme ça, ça semble stupide, mais cela m'a toujours complexée. Elles forment deux longues marques étirées, allant de ma mâchoire jusqu'à ma joue gauche, comme des cicatrices décolorées sur ma peau noire. Avec le temps, et ce que j'ai appris des hommes, j'ai compris que ma situation n'avait rien d'exceptionnel. J'avais ma mère et c'était bien assez. Quant au jour, il a disparu bien avant que je ne naisse. Ma mère m'a dit que la nuit n'avait pas toujours été là, qu'il fut un temps où une gigantesque boule de lumière éclairait le monde et révélait ses couleurs. Elle me parle souvent de teintes que je n'ai jamais vues. Une saison, il faisait si chaud qu'elle changeait l'odeur du blé, de l'herbe et des arbres, et la couleur du ciel en fin de soirée. Je l'ai toujours écoutée avec attention, j'ai regardé certaines photos qu'elle me montrait. Mais après tout ce temps, j'en viens à me demander s'il n'aurait pas mieux valu que je n'en sache rien. Le jour a disparu et nous marchons sans discontinuer à sa recherche.
Voilà, donc on espère que ce début de lecture par Jade vous aura donné envie de venir emprunter le livre et de vous y plonger.
Moi, ça me donne envie en tout cas.
Oui, c'est une chouette ambiance, puis on voit aussi, enfin, ce qui apparaît pas dans cet extrait, mais Elikia, c'est un personnage qui est en construction, qui se pose plein de questions. C'est un voyage aussi bien dans une faune et une flore extraordinaire, mais aussi vers l'âge adulte.
Et du coup, on peut enchaîner avec un autre livre qui a aussi été offert par les éditions Albin Michel. Ça s'appelle « Faut savoir dire non ». C'est écrit par Agnès Rosentiel, t'en parlais tout à l'heure, Nina. Et c'est un livre sur le consentement. Alors, c'est pour les enfants de quel âge à peu près ?
Alors, à quel âge on commence à parler de consentement aux enfants ? J'ai l'impression que je l'ai entendu dire qu'il n'y avait pas d'âge. En tout cas, je ne sais pas si vous avez lu ou déjà vu le personnage de Mimi Cracra. Là, c'est des petites scénettes très simples, en fait, qui, à chaque page, mettent en scène une relation à dire oui ou dire non. Enfin, le titre du livre, c'est donc « Faut savoir dire non ». Et en dessous, on a deux petits personnages, un qui dit « Moi, je dis oui, c'est plus poli ». Et l'autre personnage répond « Non », pour vous donner une idée. C'est un livre qui aborde des choses très importantes, aussi bien des jeux d'enfants où, en fait, il faut apprendre à dire non, mais aussi des choses comme le grand cousin qui lui dit « Eh, regarde, t'as vu mon beau zizi ? Moi, je te le montre. Alors toi, tu me montres le tien et on va s'amuser, d'accord ?» Et tout simplement, l'autre personnage répond. Enfin, le petit enfant répond.
Non, hé, le cousin, ça va pas? Va-t'en et pas touche. Non, c'est non.
Voilà, et je crois qu'en fait, ce qu'elle a voulu faire, c'est qu'au milieu de, choses comme ça un peu plus anodines, je pense aussi de donner des outils aux parents de situations qui pourraient probablement arriver. Et de les voir illustrer, bah, ça permet de les appréhender.
Oui, puisque tu disais sur les illustrations où on voit vraiment des enfants en position d'autodéfense, pour des enfants qui voient ces images, ça donne aussi des postures et des outils, en fait, pour riposter, en fait.
Oui, ça aide un peu, ça peut permettre d'identifier à quel endroit c'est complètement OK de poser des limites. Même quand on nous apprend qu'il faut obéir aux adultes, et ben là, du coup, ça va un peu plus loin et ça montre qu'il y a des endroits où c'est pas OK.
Un livre bien nécessaire, du coup.
Voilà, et c'est vrai que je pense que ça peut être un bon outil quand on ne sait pas trop comment aborder ces questions-là, qu'on a envie de, d'en parler, mais avec cet appui, ça peut, je trouve, un peu casser quelque chose qui est un peu de l'ordre du tabou.
Et elle est assez forte, quand même, dans toutes ces parutions, toutes ces dernières parutions. On a déjà à la Bibli un livre qui s'appelle Les filles, alors qu'il y a une représentation du genre très binaire, puisqu'elle... Elle s'occupe de représenter qu'est-ce que c'est qu'une petite fille par rapport à, je crois, son cousin. Et en fait, on voit un tas de comportements de qu'est-ce que c'est que de se construire comme une petite fille qui veut pas être assignée à tout ce qu'on s'attend d'une petite fille. Elle a une œuvre assez intéressante et c'est aussi peut-être un peu nostalgique pour toutes les personnes qui sont nées dans les années 80 et 90 qui retrouvent le dessin de Mimi Cracra.
Donc on va découvrir et vous faire découvrir tous ces livres à la Perme du 26 avril, puisqu'en plus on prépare une Perme spéciale littérature jeunesse. Comment ça s'organise? Qu'est-ce qui se prépare?
Et puis du coup effectivement on a envie un peu de communiquer autour de cette Perme pour inviter tout le monde, mais en particulier des enfants donc, qui viendraient avec leurs parents ou d'autres adultes de leur entourage. Et on aimerait bien proposer une ou plusieurs lectures d'albums. Ce qui est chouette à la radio, c'est qu'on peut mettre en voix ces livres, mais les albums jeunesse, souvent, ils ont des illustrations super à la fois riches et belles, et qui appuient le texte et qui le complètent, et presque le texte seul, c'est un peu insuffisant. Enfin voilà, du coup, on vous invite vraiment à venir voir les illustrations de ces albums.
Et on aura un autre livre à vous faire découvrir, qui a été offert par la maison d'édition Kilowatt, qui nous ont envoyé plusieurs livres. Et pour présenter les éditions Kilowatt, c'est une maison d'édition qui publie des documentaires et des albums qui sont destinés à la jeunesse. Ils nous ont envoyé le livre « Tous pour une » de Nancy Gilbert. Et j'ai une petite surprise sonore à ce sujet, parce qu'avec la radio InfoRC, j'anime des ateliers à l'école des Oliviers à Aubenas. Et à l'occasion du 8 mars, journée internationale de défense des droits des femmes, on a fait tout un cycle sur l'égalité, sur les questions de genre. Et dans ce cycle, on a lu ce livre. Et aujourd'hui, ça va être les enfants, alors Aya, Lia, Liam, Elissa et Mohamed qui vont vous présenter ce livre. C'est d'abord Aya qui vous présente le personnage principal.
Imani, elle a des lunettes rouges, elle a un ballon, elle a un shirt rouge, un tricot blanc et bleu et des cheveux noirs et elle a la peau marron.
Quel est son caractère à Imani?
Elle est gentille et...
Elle fait des expériences.
Elle aimait de la danse. Comment elle s'appelait cette danse en vrai?
C'est comme la danse hip-hop.
La breakdance.
Avec qui elle fait de la breakdance, vous vous rappelez?
Avec son copain.
Et elle a une copine qui s'appelle Nell.
Ah, le foot. C'est comme ça qu'elle a un ballon. C'est comme ça que sa copine a un ballon.
Parce qu'en fait, les deux filles, ils aiment le foot et le garçon, il fait de la danse. C'est le contraire des filles. Normalement, les filles, ils font du foot. La danse et normalement le garçon il fait du foot, mais sauf qu'en fait c'est pas comme ça, mais ça a changé. Donc les filles font du foot et le garçon il fait de la danse.
Et qu'est-ce qui se passe dans la cour de récré?
Ils jouent au ballon.
Et pourquoi ça crée des problèmes?
En fait, parce que leur terrain il est trop petit,
donc il y a plein de disputes.
Après, bah, ça va faire des problèmes. Et s'ils restent sur le terrain,
elle joue sur le mur avec ses copains. Contre le mur, ils jouent à l'eau touche-touche à côté de la salle de classe et des toilettes. Ouais, elle danse avec son copain, mais son autre copine joue au foot. Elle voudrait jouer au foot, mais elle peut pas parce que les garçons ils ne veulent pas, ils n'acceptent pas les filles parce qu'ils croient qu'en vrai le foot c'est que pour les garçons et pas les filles.
Elle peut pas danser au milieu parce que les garçons ils jouent au foot et après ça leur gêne. Donc elle joue vers les murs.
Elle déteste qu'elle peut pas faire. Elle déteste l'injustice. Je vais vous expliquer pourquoi elle déteste ça. Parce que l'injustice c'est en vrai quelque chose qu'on peut pas faire, qu'on n'a pas le droit de faire quand on a le droit de jouer au football ou qu'on n'a pas le droit de jouer au football. Donc c'est ça l'injustice.
J'ai aimé dès qu'il y avait du foot parce que j'aime bien le foot.
Au revoir mesdames et messieurs, je vous aime.
C'était les enfants de l'école des Oliviers qui présentaient les livres Tous pour une de Nancy Guilbert. Est-ce que vous avez envie de réagir à leur retour sur ce livre ?
Oui, moi ce que je retiens c'est quelque chose que j'ai l'impression qui a pas mal été étudié en sociologie, notamment sur la façon dont le genre est construit par la façon dont... Voilà, on est éduqué notamment, et sur la répartition de l'espace dans la cour de récré. Mais du coup, là, moi, j'ai pas lu ce livre, donc je sais pas très bien, mais ça donne l'impression que là, c'est inversé. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils disent les enfants, que enfin, ce qu'ils connaissent dans leur quotidien, c'est plutôt les garçons qui jouent au foot et les filles qui dansent. Et en général, voilà, on a plutôt tendance à remarquer que le terrain de foot prend une grosse partie de la cour de récré et...
Oui, moi aussi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est la question de la répartition de l'espace public entre les filles et les garçons, et l'espace public quand t'as 9 ans, c'est la cour de récré. Et oui, cette répartition, on constate qu'elle est souvent inégale, comme tu disais, puisque le terrain de foot prend toute la place et les filles jouent plutôt sur les côtés. Et c'est ce que le livre dénonce. C'est pas inversé, c'est juste qu'il y a des personnages, il y a un personnage féminin qui veut jouer au foot avec les garçons et qui du coup va revendiquer ça. Et il y a un personnage, un garçon qui danse, qui aime bien danser, et du coup qui lui est relégué aussi sur les côtés avec les filles, avec la danse. Quand j'ai lu ce livre avec les enfants, ça m'a fait penser au documentaire d'Éléonore Gilbert, un documentaire qui s'appelle Espace, où on voit une petite fille dessiner sa cour de récré. Et on peut écouter d'ailleurs un petit extrait de ce documentaire.
Là, bon, bien sûr, il y a plein de petits endroits où on peut jouer. Mais si on les rassemble tous, ça fait un gros endroit, on peut se dire. Mais ils sont pas à côté. Et quand tu veux jouer à un gros truc comme les garçons avec leur foot, ça prend tout ça. Et puis je sais pas, nous on est obligés de prendre ça, c'est pas parce qu'on est des filles qu'on n'a pas le droit, quoi.
Voilà, c'était un petit extrait du documentaire d'Éléonore Gilbert. Et vous l'avez vu, vous, ce documentaire ? Vous en avez pensé quoi ?
Ouais, moi je l'ai vu et je trouve super parce que ça fait déjà 10 ans, je crois. Et maintenant, il y a des fois, on tombe sur des articles où on voit... des histoires de cours de récréation inclusives où les stades de foot sont réduits de moitié et où l'espace est repensé.
Bah en tout cas, moi, ça m'a posé la question de quelles envies on s'autorise et comment nos envies sont travaillées par nos conditionnements genrés. Et ça m'a amené à la question aussi par rapport à la littérature jeunesse, des représentations qu'on offre aux enfants. Et qui, pour nous, c'était important de se dire on va créer un fonds de jeunesse qui soit le moins oppressif possible et qui soit inclusif, et de se dire quelles sont les difficultés qu'on rencontre et pourquoi c'est difficile. Et ça, je pense qu'on peut en parler. Il y a plusieurs facteurs, je pense.
On cherche beaucoup. Je ne sais pas si on trouve beaucoup, mais on cherche beaucoup d'autres représentations. Et ça me fait penser... Enfin, récemment, j'ai suivi un stage sur la littérature jeunesse et où... était abordé aussi le fait que souvent, c'est des petits-enfants dans des jolies maisons ou, enfin en tout cas, d'une classe sociale élevée. Et qu'en fait, de voir aussi des petits-enfants autrement, qui vivent dans un immeuble, qui vivent sur un terrain vague, c'était encore un des grands absents de la littérature jeunesse. Et je crois que, ouais, en fait, on peine un peu à trouver des choses très pertinentes, mais il y en a, heureusement.
Oui, je pense qu'il y en a de plus en plus. J'ai l'impression que c'est quand même une réflexion qui se diffuse de « Ok, comment on fait pour pas raconter toujours les mêmes histoires ?» et aussi, du coup, donner l'impression que c'est ça, le modèle, l'idéal à atteindre.
Et on avait aussi un extrait de Lauren Safou dans l'émission Miroir, Miroir sur Binge Audio qui explique en fait la responsabilité des lecteurs et des lectrices et aussi la responsabilité des maisons d'édition dans l'offre en fait, qui est disponible. On peut l'écouter.
Alors pour moi, en fait, il y a deux vecteurs pour que ce... On est sur la bonne voie,
puisque je pense que l'aventure de Papillon Noir le prouve, c'est qu'il y a Papillon Noir, faut quand même le rappeler, qu'il a commencé dans un mode d'édition indépendante, hors des circuits traditionnels, puisqu'on est passé par une campagne, etc., etc., et qu'il est arrivé beaucoup plus tard dans le circuit, avec un gros circuit de distribution, de diffusion, etc., etc. Donc ça reste trop rare. Et en plus, il y a toujours ce risque de se dire « Oh, ben, y a un bouquin qui parle de ça, donc n'en faisons pas d'autres », qui est très, très, très français. Mais clairement, pour moi, il y a vraiment deux vecteurs d'amélioration. C'est à la fois l'exigence des lecteurs. Je ne répéterai jamais assez que ce sont les lecteurs qui font la littérature de demain. C'est eux qui vont faire en sorte de faire comprendre à l'éditeur « Ben, en fait, on veut plus de livres comme ça ». Et clairement, l'éditeur, il veut pouvoir justement faire vivre sa maison d'édition. Donc, il va voir les tendances en fait que les lecteurs veulent revoir, etc. Quand on a 50 000 livres sur les vampires dans les années 2010, etc., etc., c'est bien parce que les éditeurs ont vu qu'il y avait quand même un engouement par rapport à ce type de littérature-là. Donc déjà, il y a vraiment une notion de lecteur responsable que les gens doivent comprendre et appréhender leur rôle en fait, d'acteur en fait, dans cette transformation de la littérature jeunesse. Ça, c'est le premier cas. Le second cas, et le plus dur, c'est qu'il faut que le monde de l'édition en fait, se positionne dans cette conversation-là. Ce n'est pas un hasard si, dans certaines collections qui veulent justement traduire énormément des œuvres dites diversifiées anglophones, vont traduire les numéros qui portent sur la notion de sexisme, mais quand c'est sur le racisme, on a oublié ce petit... on ne fera pas de pub, mais quand on va oublier malencontreusement la traduction de ce livre qui portait justement sur le racisme et qui mettait en avant un personnage racisé, etc. etc. Donc il y a une responsabilité qui incombe au monde de l'édition de s'emparer de ces questions-là, d'accepter aussi qu'en refusant cette conversation-là, il perpétue autant dans les équipes que dans la production même de cette littérature, qu'il perpétue du coup le maintien de ces discriminations, donc en l'occurrence le racisme, mais aussi la xénophobie, l'islamophobie aussi, qu'on retrouve en littérature jeunesse, aussi la grossophobie, parce que, bon, bref, je ne citerai pas de titres, c'est très dur, mais voilà, il y a beaucoup d'exemples.
Après, on peut en citer pour ne pas les acheter justement, mais faire l'effet contraire.
Ils sont faciles à trouver, mais voilà, c'est ça, c'est qu'il y a une vraie responsabilité de accepter qu'il faut avoir cette conversation. Si en 2019, on a un collectif de femmes bédéistes qui dénoncent le fait que même le prix d'Angoulême n'avait aucune femme ou pratiquement aucune femme lauréate, c'est bien parce que c'est un monde d'édition qui n'a pas voulu entendre pendant des années, en fait, pendant des décennies. C'est les mêmes barrières. Il faut juste savoir en fait quel rôle on peut jouer quand on a conscience en fait de ce qui se joue actuellement, quoi.
Donc c'était la voix de Laura Ansafou dans l'émission Miroir Miroir sur Binge Audio et Le Temps File. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là sur le tour d'horizon sur la question des littératures jeunesse. Et pour terminer, la Bibli, c'est aussi des rencontres. La prochaine rencontre, c'est autour du livre Des paillettes sur le compost, avec l'autrice Myriam Bahafou qui vient à Aubenas, invitée à l'initiative de la Fougue. Est-ce que vous voulez nous parler de cette rencontre ?
Oui, alors pour en dire quelques mots, ce sera une rencontre qu'on va co-organiser avec la librairie du Tiers-Temps. Ce sera au Tiers-Temps le 29 mai, c'est un mardi, ce sera en fin d'après-midi. On va préparer cette rencontre, on a plein de questions à poser à l'autrice. On est plusieurs à avoir lu Des paillettes sur le compost, et on va faire un arpentage aussi au sein de l'équipe Ibli, c'est une lecture collective. C'est un livre qui... sur les écoféminismes.
Je pense que tu peux ne pas en dire trop, parce que ce qui serait trop bien, ce serait que la Fougue revienne pour parler plus précisément de cette autrice. Et...
Ah ouais, bah avec plaisir. Et voilà, rendez-vous au Tiers-Temps pour rencontrer Myriam Bahafou et lui poser toutes les questions que son livre nous suscite.
C'est juste l'annonce de l'événement, là, le teaser, et puis on viendra développer plus longuement une prochaine fois dans La Vagabonde. Eh bien, est-ce que vous voulez dire un mot pour terminer, puisque ça va bientôt être le moment de se quitter?
Non, bah, je sais pas, merci de nous avoir invités. C'est chouette de aussi faire un peu une rétrospective. J'ai l'impression un peu comme si c'était un an de la Bibli, en quelque sorte. Et donc, de revenir sur tout ce qui s'est fait cette année, je trouve que ça m'enthousiasme beaucoup de voir comment ça a grandi, tous les livres et les lecteurs, lectrices qu'on a.
Et on espère que ça vous a donné envie de venir nous voir. Voilà, ne soyez pas timides, libérez-vous le mercredi, le samedi. Si vous avez envie aussi de profiter des livres adultes, parce que vous êtes un adulte et que votre enfant est toujours dans vos pattes, bah, y a des livres et nous, on peut aussi prendre le relais pour lire des livres aux enfants. Et bah, bonne découverte et bonne lecture à vous.
Oui,
on peut merci, aussi... Colline, de nous avoir conviés.
Merci, Jade et Nina, d'être venues, surtout.
Ouais, on reviendra.
Avant l'orage, une émission féministe de découverte littéraire. Et pas que.